Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 51 de Vivant. Finirons-nous tous en compost avec Pierre Berneur. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Brodley de Tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Finirons-nous tous en compost? Cette question, je l'ai posée à Pierre Berneur, président de l'association Humo Sapiens pour une mort régénérative. Dans cet épisode, une discussion captivante sur la terramation. La terramation n'est pas encore légalisée en France, mais cette nouvelle pratique funéraire ouvre un champ possible complémentaire à la crémation et l'inhumation. Leur objectif? Transformer nos corps en humus, nos tombes en arbres et nos cimetières en forêt. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Pierre Berneur. Bonjour Pierre, bienvenue dans Vivant, comment tu vas?
Bonjour Teddy, écoute, merci de m'accueillir dans Vivant, ça va très bien, ravi d'être là.
C'est cool, tant mieux. D'y voir Pierre, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter?
Bien sûr, Pierre Berneur, j'ai 36 ans, j'habite à Nantes. Je suis papa d'un petit garçon qui a 3 ans, j'adore les voyages, je suis d'un naturel très optimiste. Et voilà, et j'essaye de changer le monde à mon échelle, le colibri.
Le colibri. Et toi, le colibri, alors, tu fais quoi pour changer le monde à ton échelle? C'est quoi ton activité? Pourquoi je t'ai invité?
Tu m'as invité, je pense, en tant que cofondateur et président de l'association Humo Sapiens pour une mort régénérative. Voilà, dans son nom complet. Humo Sapiens, c'est une association qui s'est fixée comme objectif de rendre accessible une alternative funéraire régénérative en France qui s'appelle la terramation et qui permet de transformer les corps humains en humus, les tombes en arbres et les cimetières en forêt.
Dit comme ça, ça a l'air assez cool. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du terme, bah voilà, ça existe, ça va exister. Moi, je suis convaincu que ça va exister, mais on y reviendra. Dans l'histoire, tu sais, dans l'histoire de tout ce qui se passe autour du funéraire, etc., à un moment donné, il n'y avait que l'inhumation qui était possible. Puis un jour, il y a la crémation qui est venue. Et toi, alors, pourquoi ça?
Alors, deux réponses. Déjà, resituer très rapidement dans l'histoire du funéraire, si on s'extrait un petit peu d'une vision actuelle, il y avait la crémation même avant, y compris en France. Voilà, c'est je crois au Xe siècle qu'il y a eu, c'est sous Charlemagne, on s'est dit non, en fait, on va interdire. Donc, ça montre bien qu'effectivement, dès qu'on prend du recul, qu'on s'extrapole, on voit qu'en fait, il y a plein de manières de faire du funéraire à travers le monde, à travers les âges, et c'est ça qui doit aussi nous guider pour l'avenir. Alors moi, maintenant là-dedans, longue histoire. C'est une démarche à la fois sensible et intellectuelle, on va dire. Je pense que voilà, comme beaucoup de mes contemporains, je suis profondément marqué par tout ce qui est en train de se jouer autour de nous, par la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, les inégalités sociales, enfin tout ce qui fait que ça déconne, et que ça me paraît sain de ne pas trop céder, dans la mesure du possible, au pessimisme, à la déprime et se projeter par l'action. Voilà, moi, en tout cas, ça a été ma réponse. Ou en tout cas la solution que j'ai trouvée dans ce contexte-là, et notamment d'être guidé par des idéaux. Alors, ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais il me semble très humblement que plus on est dans un monde qui nous fait peur et plus on doit chercher à poursuivre des idéaux. Mmh. Et l'idéal, pour le coup, que je poursuis avec beaucoup d'autres, il n'y a pas que moi, serait celui d'une société qui prend soin du vivant dans son ensemble, et notamment de l'humain, et en notamment en opposition avec un certain projet de société qui viserait plutôt à nous opposer les uns aux autres, à nous opposer aux vivants. Mmh. Et une fois dit ça, je trouvais aussi important, pour que cet idéal advienne quelque part, de l'incarner au travers d'un projet concret. Sinon, il y a le risque de ne rester qu'au stade des idées. Ouais. Et quand j'ai découvert le concept de terramation, c'était au printemps 2020, ça a vraiment fait un déclic en moi, un déclic d'abord au niveau de la tête, il disait, bah voilà quelque chose qui coche toutes les cases, entre guillemets, qui incarne bien un nouveau projet de société de reconnexion au vivant, qui est à la fois intime et social, qui est à la fois spirituel et matériel, enfin voilà, qui était vraiment très complet. Donc ça, c'était au printemps 2020, et quelques semaines après, j'ai appris que j'allais devenir papa, donc. Et là, ça a touché, non seulement, après avoir touché la tête, ça a touché le cœur, et je me suis dit, voilà, c'est important qu'on cherche à léguer quelque chose de plus beau, de plus poétique, de plus durable aux générations futures, voilà.
Tu as dit, quand j'ai découvert la terramation, comment t'as découvert la terramation?
Par hasard, hein, je pense que c'est comme beaucoup, enfin, comme quasiment tout ce qui nous arrive, c'est un peu par hasard, surtout les plus belles choses. C'est sur Internet, il me semble. Voilà, j'étais un peu évidemment à l'affût de choses et puis connecté. Alors c'est pour le coup la puissance des réseaux sociaux. Hein, les algorithmes font qu'on nous pousse quand même des choses qu'on attend, pour le pire et des fois pour le meilleur. Et là, en l'occurrence, c'était pour le meilleur.
Et c'était quelque chose que tu avais. C'est une pratique que donc tu as constatée dans d'autres types de cultures, genre de choses ou...
A priori, on aurait pas trouvé de traces d'une telle pratique à travers le temps ou l'espace au sein des sociétés humaines pour la transformation des corps en humus. Deux possibilités. Soit c'est tellement écologique au sens profond du terme, hein, écologique, pas le mot valise contemporain, qu'on ne peut pas y voir de traces durablement. Soit c'est un choix qui n'a été fait par aucune société humaine parce que ça répondait pas aux croyances de ces peuples ou civilisations. Il y avait pas ce besoin d'y trouver ce sens-là et donc d'avoir cette pratique-là. Et pour être tout à fait honnête et humble, je ne serais pas tranché entre ces deux scénarios. Mais globalement, c'est un questionnement qu'on retrouve dans toutes les sociétés occidentales. J'en prends pour exemple la conférence qui a été organisée l'année dernière par les opérateurs américains, où étaient présents dans le public, globalement, des représentants ou des citoyens de tous les pays occidentaux. Voilà, je montre l'attrait pour le sujet. Sans doute parce que c'est dans ces sociétés-là qu'il y a une remise en question la plus profonde de nos projets de société. Donc aujourd'hui, il y a, on va dire, deux pôles majeurs d'activité autour de la terramation. Le premier aux États-Unis, où la pratique, on va dire, a été au stade de recherche depuis 2010, environ 2012, et a été légalisée dans un premier état en 2019. C'était l'état de Washington. Et aujourd'hui, il y a 6 ou 7 états qui ont légalisé la pratique. Ce qui traduit la démocratisation de la terramation outre-Atlantique. Et en Europe, depuis un petit peu plus récemment, et notamment en Belgique, sous l'action d'une fondation qui s'appelle Métamorphose, où la terramation est en recherche depuis, on va dire, 2014, quelque chose comme ça. Où là, c'est toujours pas légalisé. On pourra revenir après dans le détail de ces questions-là, techniques et légales.
Ça roule. Je voudrais juste qu'on fasse un petit point d'arrêt, simplement sur... on a dit très vite, finalement, ce qu'était la terramation. Très, très vite. Ouais. Si on devait rentrer un peu plus dans le détail, finalement, comment tu l'expliquerais vraiment à une famille qui perd un proche et qui pourrait avoir le choix dans cette pratique? Comment tu lui expliquerais le déroulé? Par quelles étapes on va passer? Est-ce qu'il y a des différences autres que la finalité, finalement, par rapport au process actuel? Je te dirais ça comme ça.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, il y a pour répondre à cette question, c'est déjà de commencer par la source d'inspiration. C'est-à-dire que d'où vient l'idée de faire de la terramation? C'est tout simplement inspiré du cycle naturel du vivant. La vie est présente sur Terre depuis plusieurs centaines de millions d'années. Donc, la mort à peu près au même moment, hein.
En général, c'est lié.
Voilà. Et en fait, dans toute son intelligence, la nature, par échecs successifs, a réussi à faire en sorte que la vie se nourrisse de la mort. Et de manière très concrète, comment ça se passe? C'est notamment au niveau des sols et des tout premiers centimètres du sol. par gravité, voilà, les matières organiques mortes se retrouvent sur le sol, j'insiste bien, sur le sol, et donc c'est toute la microfaune, qu'elle soit composée de champignons, de bactéries, de micro-organismes autres, présents dans les tout premiers centimètres du sol, qui peuvent s'en nourrir, et ainsi la dégrader en une terre qui devient très très riche, qu'on appelle l'humus. Et cette terre va venir alimenter, nourrir les racines des plantes alentour, qui vont permettre la croissance des végétaux, qui elle-même va nourrir les animaux, et quelque part refermer la boucle du vivant. Donc ça, c'est la manière dont ça fonctionne depuis des centaines de millions d'années. L'humain a fait des choix différents, puisque voilà, avec son pouvoir d'action, il a pu quelque part s'extraire de ce cycle naturel et faire des choix différents pour ses pratiques funéraires, en lien avec des croyances multiples. L'idée avec la théramation, c'est justement de chercher à s'inspirer et de reproduire ce processus d'humification, donc de formation de l'humus, pour en faire une pratique funéraire qui permette à la fois de régénérer les sols, si on prend la question sous l'angle purement matériel, j'ai envie de dire, mais aussi, par la même occasion, bien évidemment, de donner du sens à l'événement de la mort, en la voyant quelque part comme un retour à la nature. Voilà, donc ça, c'est la source d'inspiration. Et donc, si je devais expliquer à une famille le comment ça se passe, donc déjà, je reviendrai au pourquoi, parce qu'il faut que ça résonne.
Oui, il faut qu'il y ait du sens, sinon ça marche pas.
Voilà, auprès du défunt, bien évidemment, avant sa mort et auprès de la famille après, sur l'idée de chercher à s'inscrire dans ce cycle du vivant, dit autrement, nourrir la terre qui nous a nourris. Et après, il y a le comment. Sur le comment, en fait, ça va pas être très différent des pratiques actuelles, au sens où, en termes de phase,
toute la partie rite, c'est ça.
Voilà, les rites, parce que en fait, ça répond à des étapes psychologiques à accompagner du deuil, et ça, il change pas hein, entre le choc, la séparation d'avec le défunt, et après l'aspect plutôt de mémorialisation, on va dire, de l'ancêtre. Donc tout le début du processus qui va être plutôt la partie de séparation d'avec le vivant, par exemple les chambres funéraires, avec la théramation, ça ne changera pas. Là où il y a une différence, c'est plutôt sur la partie de transformation, de disparition du corps, c'est-à-dire comment on cache le corps et que la pratique funéraire accomplit aussi un de ses devoirs qui est de faire disparaître le corps à un moment donné. Si on devait se projeter à quoi ça ressemblerait, on pourrait imaginer deux choses, suivant la manière dont on pratique la théramation. Je m'explique, la théramation est un concept, comme la crémation, qui peut se décliner en des protocoles un peu plus techniques différents. Okay. Et je prends l'exemple de la crémation au bord du Gange en Inde, on voit bien que ça renvoie pas aux mêmes représentations et aux mêmes techniques que la manière dont on fait de la crémation en France.
Tout à fait.
Et en fait, c'est la même question pour la théramation. Je vous parlais tout à l'heure des États-Unis et de la Belgique. Aux États-Unis, la forme qui a été légalisée de théramation est une forme en milieu artificiel, on va dire, très contrôlée, optimisée. On va venir vraiment par des capteurs, injecteurs, presque, optimiser le milieu dans lequel est placé le corps. Donc, vous pouvez imaginer du broyat naturel, des micro-organismes, des éléments végétaux, on va optimiser tout ça, la température, pour avoir une transformation du corps en humus qui est la plus rapide possible. Et donc, en termes de représentation d'image, ça ressemblerait presque à un crématorium, en fait, dans l'esprit. C'est-à-dire que, on est dans un bâtiment, le corps est placé dans une cellule, disparaît dans cette cellule à un moment donné, qui acte la séparation d'avec le défunt. La différence avec la crémation, c'est que ça prend environ un mois pour aboutir à la transformation du corps en humus, là où ça prend quelques heures dans un crématorium. Donc ça, c'est une manière de faire qui est possible, qui existe aux États-Unis. L'autre manière de faire la disparition, la transformation du corps en humus, donc tel qu'il la, il la recherche en Belgique, est une manière de faire plutôt en milieu naturel, avec un minimum, on va dire, de technologie, bien évidemment quand même sous le contrôle de professionnels qui maîtrisent parfaitement ces questions de ces processus d'humification des corps. Mais donc là, il faut plutôt imaginer une butte ou en tout cas un espace à même le sol qui, dans l'esprit, se rapprocherait plus cette fois de l'inhumation, en fait. Voilà, on est vraiment en milieu naturel et le corps a un espace réservé pour sa dégradation en humus. La différence avec l'inhumation, c'est sans doute le moment d'en parler, parce que comme il y a le rapport à la terre dans les deux cas, on pourrait confondre, c'est que dans l'inhumation, on cherche, pour des raisons de croyance, à protéger le corps d'une dégradation. Donc, on va aller le mettre en profondeur, on va voilà le protéger du milieu extérieur, qui en fait va induire une très mauvaise décomposition des corps et la production de pollution des sols, en fait. Avec la terramation, on va chercher au contraire à tout faire pour que le corps soit quelque part offert au monde vivant qui habite le sol. Et donc, on va chercher à être beaucoup plus proche de la surface et à s'assurer que les conditions voilà, d'oxygénation, tout ça, permettent sa bonne transformation en humus. Donc ça, c'est l'étape de disparition du corps qui, en fait, comme je le disais, suivant les protocoles qu'on va choisir, ressembleront soit à l'étape pour les familles du crématorium, soit du cimetière. Et après, il y a la dernière étape qui est l'étape de la mémorialisation dans le temps, dans la durée, l'équivalent du columbarium pour la crémation ou de l'espace de déversement des cendres. Eh bien, l'idée qu'on défend et que défendent globalement tous les acteurs qui travaillent autour de la terramation serait que cet humus puisse venir nourrir une forêt de mémoire, une forêt collective, qui serait sans doute présente dans les cimetières, pour que les familles puissent durablement venir se recueillir. Ça, c'est ce qui permettrait de faire le lien, on va dire, avec la vision actuelle des lieux de mémoire. Mais pourquoi pas venir discuter, vivre, jouer, s'il y a un renversement tel que les lieux de mémoire deviennent aussi des lieux de vie, ce à quoi personnellement je suis. Donc voilà, c'est comme ça, entre guillemets, que je présenterai le processus de rite de terramation aux familles avec ces trois étapes. La partie veillée funéraire qui ne change pas, la partie de la transformation du corps, la disparition du corps qui se rapproche soit du crématorium, soit du cimetière, et la partie de mémorialisation où il y aurait un espace forêt au sein des cimetières.
Ouais, donc forêt cinéraire pour le coup.
Oui, pourquoi j'ai pas parlé de forêt cinéraire, mais il faudra imaginer. De toute façon, sur une pratique aussi nouvelle, il y a évidemment beaucoup de créativité sémantique aussi autour des termes, donc ça va sans doute beaucoup bouger aussi. Aujourd'hui, il y a des forêts cinéraires qui permettent d'accueillir les cendres post-crémation. L'idée là, c'est d'aller, on va dire, un cran plus loin, sans doute au niveau de la symbolique et puis même la concrétisation matérielle, avec un corps qui va vraiment venir nourrir la forêt par de l'humus qui sert la croissance des végétaux, là où les cendres n'apportent pas grand-chose, en fait, matériellement. Symboliquement, je pense qu'elles apportent beaucoup. On pourrait tout à fait imaginer avoir à terme dans les cimetières une forêt qui vienne à la fois accueillir l'humus issu de la terramation et les cendres issues de la crémation, pour ceux qui feraient ce choix.
On est d'accord. Je voulais partir aux États-Unis, mais du coup, je vais rester un peu avant de t'emmener là-bas. T'as dit deux choses qui m'ont interpellé. Bon, déjà, il y a le mot croyance qui revient souvent dans ce que tu dis, le mot croyance pour des raisons de croyance, etc. On pourra redéfinir, mais qu'est-ce qu'une croyance au final ? Mais bon, bref, on ne va pas non plus rentrer dans un philosophie magazine, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et surtout, tu as dit, on pourrait imaginer un changement de situation tel ou de conceptualisation des cimetières où ça deviendrait des lieux de vie. Et tu as dit, personnellement, moi, je suis plutôt favorable à ça.
Moi, je fais partie des gens qui aiment bien me balader dans les cimetières avec mes enfants. Je suis parti des gens qui aiment bien me balader, papa. Et voilà, et puis on regarde. Alors, c'est peut-être bizarre dit comme ça pour les gens qui ne sont pas forcément. Voilà, mais allez le faire quand même, hein, c'est agréable de se balader dans un cimetière, etc. Et puis quand il y a un pot de fleurs renversé, bon, on le remet. Et puis moi, mes enfants, c'est les premiers à remettre les pots de fleurs, des gens qui ne connaissent pas, tu sais, entre guillemets. Ah là, il y a le pot de fleurs, machin truc. Alors, tu penses bien qu'à la Toussaint, et vu les vents qu'il y a eu, il n'y a eu pas un pot de fleurs par terre. Mais c'est des moments qui sont super agréables, en fait, et tu déconnectes complètement avec la vision un peu tragique de la mort. Et je ne fais pas partie des gens qui ne pensent pas que la mort, ce n'est pas un événement. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un bouleversement. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que notre prisme mental peut changer par rapport à ça, à mon avis, et qu'on peut voir les choses différemment. Ça t'évoque quoi quand je te dis ça?
Bah, c'est exactement ce que je voulais dire, hein. C'est typiquement, tu prends des exemples concrets de en quoi ça devient un lieu de vie et non pas un lieu en dehors de la société, on va dire. Voilà, donc ça m'évoque que c'est une illustration parfaite de mon propos. Sur les croyances, pour revenir à ce que tu disais, parce que ça va être très lié à cette question de lieu de vie. Il y a quelque chose qui m'énerve, c'est mon moment coup de gueule.
Allez, et voilà, on y est.
C'est quand on a l'air de dire quelque part croyance égale forcément religion, et notamment en France, religion catholique majoritairement de par notre histoire. Je pense que c'est un gros leurre. On a tous des croyances, y compris de manière contemporaine, dans un pays qui se veut laïque. L'humain ne peut pas avoir de croyance. Il y a forcément, donc pour prendre une définition de croyance, alors je suis en train de réfléchir un peu en live, mais une représentation inconsciente du monde, individuelle ou collective, voilà, ça peut être des croyances individuelles ou des croyances collectives, mais en tout cas, on va dire que c'est une représentation inconsciente du monde. Et c'est directement lié à la question funéraire, parce que la question funéraire, en tant que c'est un événement majeur d'une vie, la mort, vient forcément se connecter directement à nos croyances et à notre vision du monde. Si j'essaie de faire un peu de sociologie de la mort, pour expliquer aussi l'évolution des rites, la mort, dans une société croyante, catholique, où le passage sur Terre n'est, entre guillemets, qu'une salle d'attente vers un paradis et proche du Créateur, la mort s'inscrit pleinement dans ce récit et y trouve toute sa place, en tant que c'est le lieu de passage. Et donc ça apportait beaucoup, notamment quand c'était vraiment un discours très présent majoritaire, d'explications autour de la mort, et donc un certain apaisement, sans doute, pour les personnes qui se projettent et pour les proches qui sont en deuil. Dans un projet de société plus contemporain, même si ça fait quelques siècles qu'il nous irrigue comme ça, où l'humain est le tout-puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas quelque chose de plus grand que l'humain, la mort n'a aucune place dans ce récit. Elle n'a aucune explication logique. Et donc, on va se retrouver avec une difficulté pour lui donner du sens. Et c'est pas anodin, il me semble, si dans la majeure partie des cérémonies maintenant funéraires, on va plutôt se tourner en arrière vers quelle a été l'histoire du défunt, plutôt qu'essayer de parler de la suite. Parce que voilà, dans ce récit contemporain, il y a pas de suite. Les croyances en lien avec ce que je viens de dire, c'est la croyance que l'humain est tout puissant, dépasse tout, qu'il n'y a pas plus grand que l'humain. Et l'autre croyance qui irrigue notamment la crémation, c'est la croyance en un hygiénisme, c'est-à-dire que l'idée qu'il faut se protéger des autres formes de vivants et de l'atteinte au corps humain qu'il peut y avoir. Et ça, c'est un courant très fort qu'il y a depuis, on va dire, le début du 19e et qui a irrigué notamment nos pratiques funéraires, mais pas que, hein, nos pratiques alimentaires, plein de choses. Là, il me semble que ce récit d'un humain tout-puissant ne tient plus par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Faut humblement admettre qu'on n'est pas en maîtrise de tout. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il me semble qu'il y a une croyance qui se développe, et je suis le premier à y croire pour le coup, qu'on est en fait pleinement membre de l'écosystème du vivant, avec nos spécificités, mais aussi avec nos similarités avec les autres formes de vie. Et il me semble que par rapport à ce nouveau récit de société qui pourrait embarquer et fédérer tous nous fédérer, nous donner de l'espoir, la mort peut reprendre pleinement son sens comme de nouveau un lieu de passage entre notre vie humaine, mais aussi nous relier à l'écosystème du vivant au moment de notre mort. Et la théramation va être l'incarnation en termes de pratique funéraire de ce récit-là. Comme l'inhumation l'a été du récit, on va dire, d'une puissance divine, et comme la crémation l'est d'une vision plus hygiéniste et d'un humain déconnecté du vivant.
Donc tu as dit qu'aux États-Unis, cette pratique était légalisée dans 7 États. Est-ce que tu as, par hasard, des données sur l'usage? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il y a des freins? Alors, bien entendu, hein, comme toute nouvelle pratique, il faut du temps pour que ça s'installe. C'est normal, parce que c'est lié à des nouveaux concepts mentaux, donc croyances, déconstruction, blablabla. Tu as des données là-dessus ou pas du tout?
Peu, effectivement, parce qu'on manque de recul sur une question aussi complexe que la mort, le deuil. On a des données matérielles, j'ai envie de dire, sur, par exemple, la réduction de l'empreinte carbone, pour revenir à des questions bassement matérielles, mais néanmoins importantes dans la période qu'on vit.
Je pense que c'est pas neutre. Tu peux en dire deux mots, il n'y a pas de souci.
Oui. Les chiffres qui sont avancés, notamment par la société Recompose, qui est l'acteur principal, l'opérateur principal de terramation aux États-Unis, est une réduction par 8 de l'empreinte carbone par rapport aux pratiques actuelles. Ça, c'est pour l'aspect effectivement matériel. Sur l'aspect social, psychologique, on a des témoignages, en fait, surtout. Avoir une vision, on va dire, sociologique grande échelle, c'est trop tôt. Sur ce que ça peut apporter. Mais en tout cas, on a des témoignages de familles qui ont pu expliciter qu'est-ce que ça leur avait apporté en termes de sens, voilà, en lien avec les croyances que j'évoquais précédemment. C'était notamment lors justement de la conférence qui était organisée par les acteurs américains qui avaient invité des familles à venir témoigner. C'était très inspirant, très touchant. Il faudra prévoir, enfin en tout cas, on ne passera pas outre une période de débats profonds au sein de la société et au sein des familles sur cette révolution funéraire, j'emploie le terme en conscience.
Oui, tu peux y aller.
Comme l'a été la crémation en France, on va dire à partir des années 70-80, où il n'y a jamais eu autant de débats, de conflits au sein des familles, et c'est un avocat spécialiste du funéraire qui m'en parlait, qu'à ce moment-là, parce que effectivement, les croyances collectives ne sont jamais qu'une somme de croyances individuelles, et il y a toujours des avant-gardistes ou des gens qui sont à la marge au démarrage. Et ça sera certainement le cas avec la théramation. On va se retrouver avec des cas où il y a des personnes qui voudront profondément ça, qui le veulent déjà. On reçoit beaucoup de messages d'attente, d'espoir autour de cette révolution funéraire, de cette nouvelle pratique. Et là, effectivement, la seule ou la meilleure option pour que collectivement et au sein des familles puissent être le plus apaisés par rapport à ça, c'est tout simplement d'en discuter autant que possible de notre vivant et de partager nos croyances profondes. C'est difficile parce que on n'en a pas l'habitude, parce que la mort, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ont été pendant longtemps un tabou de société, qu'on n'en parle pas devant la société, qu'on n'en parle pas dans les familles. Voilà, je pense que ça sera la meilleure manière que tout le monde vive ces moments de transition en paix.
On est d'accord. Alors pour y arriver, il y a encore un peu de chemin. Vous en êtes où? Alors le vous en êtes où? Et deuxième question qui est liée à le vous en êtes où, c'est vos défis quotidiens à vous, parce que quand même, voilà quoi, ça se fait pas comme ça.
Alors, mon défi quotidien à moi, déjà, avant de prendre vos audiences, c'est d'arriver à concilier vie de famille, projet Homo sapiens et rentrée d'argent. et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, d'arriver à concilier tout ce dont on a besoin pour s'épanouir et pour vivre. Mm-hmm. En tout cas, voilà, si tu veux rentrer vraiment dans le concret, ça, c'est mon quotidien. Mais écoute, je suis plutôt en paix et satisfait de l'avenir dont ça s'est déroulé jusqu'à maintenant, donc c'est chouette. De manière un peu plus collective, au niveau du mot sapiens, l'enjeu, jusqu'à très récemment, c'était d'avoir une espèce de fenêtre qui s'ouvre et de trouver une petite place dans l'écosystème de la société, du funéraire, pour porter le sujet. Mmh. Je pense qu'on a réussi à le faire en 2 ans d'existence. Maintenant, notre enjeu, ça va être d'accompagner, je pense, une montée en puissance de ce sujet au sein de la société et également au sein du secteur funéraire, de manière un peu plus précise, avec tout ce que ça implique comme travail de recherche, travail de plaidoyer, si on veut faire les choses bien, et on le veut. Donc voilà, ça va vraiment être une question de comment on arrive à réunir les moyens pour soutenir notre ambition qui est énorme.
Ouais.
Il s'agit de rien de moins que changer le regard sur le monde, la mort et sur la vie. Voilà, ça c'est le défi qui s'ouvre pour l'association. Où est-ce qu'on en est? Pour répondre à ta première question, on en est au début du chemin, comme tu l'as dit toi-même, mais il y a un certain nombre de signaux qui me laissent à penser que ça va avancer plus vite que certains ne le pensent.
Je pense aussi.
Le premier signal, c'est le fait que ça existe aux États-Unis et que c'est en train de se développer, qu'en Allemagne, ça bouge aussi, ça se rapproche. Pourquoi c'est avancé plus vite dans ces pays que dans le nôtre? Notamment parce que c'est des pays fédéraux où il y a beaucoup de législations différentes et qu'il suffit qu'il y en ait une qui prenne un risque pour que ça avance. Là où nous, on a une législation centralisée, donc c'est forcément toujours un petit peu plus long.
Plus long.
C'est une des explications, c'est pas la seule. Donc voilà, ça c'est le premier motif, je pense, d'espoir. Le deuxième, c'est l'attente sociale pour le sujet. Le premier travail qu'on a voulu faire, c'était justement de mesurer l'opinion publique. On a fait un sondage avec le soutien de Maïf, que je remercie énormément au passage, et qui a été réalisé par Opinionway en 2022. Ouais. Il s'appelle Les Français et la Terramation. Pour trouver les résultats détaillés sur notre site. Et qui montre que il y a 59% des Français qui aspirent à une mort régénérative, mm-hmm. qui ont ce besoin de trouver ce sens-là à l'événement de la mort, c'est-à-dire l'idée qu'on peut régénérer le vivant à travers notre mort, à travers notre corps, qui est, en termes de représentation, une vraie révolution, hein, par rapport à la vision du funéraire et de la mort ces derniers siècles. Mm-hmm. Et l'autre chiffre, hyper intéressant aussi et porteur d'espoir, c'est qu'il y aurait, eh bien il y aurait, ce n'est qu'un premier sondage, 46% des Français qui seraient prêts à recourir dès maintenant à la terramation. Donc, loin de certains doutes que je pouvais avoir ou que d'autres ont sur l'idée que ce sujet serait un repoussoir, bien au contraire, mm-hmm. on ressent d'ores et déjà une vraie attente, une vraie aspiration de la société française pour ce sujet, et c'est bien ça qui est le plus important pour derrière construire le cadre à la fois technique et légal qui va permettre la pratique possible. C'est bien la société civile qui pousse, qui fait bouger les lignes. Mmh. Et c'est le rôle, pour le coup, de l'association de s'en faire la caisse de résonance. Voilà les motifs d'espoir. Donc, alors, de là à projeter sur des dates, je ne sais pas.
C'est pas ce que je te demandais.
Mais on en est là.
Faut jamais s'annoncer, faut jamais avancer des dates.
L'objet, nous, on veut pas confondre vitesse et précipitation côté Homo sapiens. C'est un sujet qui est bien trop important. Si on aspire à créer un mode de sépulture qui est vraiment durable, respectueux, qui puisse permettre à la société de s'épanouir pendant des siècles, voire au-delà, j'assume totalement qu'on prenne 3, 5, 10 ans pour le faire bien. Mmh. Et donc le faire bien, c'est construire un cadre qui est à la fois culturel, technique et légal, et qui soit bien au service d'une société de respect de l'environnement, du vivant et de l'humain. On a eu le premier colloque interacteur à l'Assemblée nationale le 7 novembre, donc voilà, il y a 10 jours,
okay.
qui a permis de mettre autour de la table des députés qui ont déjà co-signé une proposition de loi sur le sujet. Voilà. Les professionnels du funéraire et des acteurs de la terramation, dont des associations, notamment Homo Sapiens, mais aussi des associations belges qui sont aussi très avancées sur le sujet, pour partager, déjà faire connaissance, et partager notre vision du sujet, les constats, et envisager la suite. Et ce qui ressort de ça, c'est que j'ai ressenti une vraie vision de société, une vraie motivation de la part des députés qui étaient présents. Ça, je le trouve rassurant. Alors, je ne pense pas que ça soit forcément représentatif de l'ensemble de la composition de l'Assemblée, mais c'est déjà un bon point de départ, parce que c'est eux qui vont quand même porter la démarche législative. Les professionnels du funéraire, plutôt dans une posture attentiste ou d'observation, on va plutôt dire ça comme ça. Si je devais résumer leur position, c'est on a toujours accompagné les familles par rapport à leurs desiderata, y compris quand il y a eu des vraies évolutions comme la montée en puissance de la crémation. On le fera, la terramation, si c'est le souhait des familles. Donc, ni très proactif, mais pas non plus en opposition. Donc, c'est déjà très bien. Et après, les associations, et notamment Homo Sapiens, dans une posture, on va dire, de venir soutenir toute cette évolution, la construction de ce cadre, soutenir tous les acteurs en apportant à la fois des résultats de recherche, qu'ils soient sociologiques ou techniques, et en se faisant porte-voix de l'aspiration citoyenne. Voilà, un petit peu l'état des lieux. Nous, notre ambition, ça serait que ça soit un sujet lors de la prochaine campagne présidentielle.
D'Ivoire, je demande souvent à mes invités, et on en parlait en off avant le podcast, puisque tu as ramené une grosse pile de bouquins. Au tout début, tu sais, je demande toujours à mes invités, est-ce que vous avez un livre à partager ou en tout cas un docu, enfin, peu importe, quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent, que ça ait un lien ou pas avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, si tu devais en choisir un, deux...
Le dernier ouvrage de Bess Morisot, L'inexploré, je pense, donc Baptiste Morisot, philosophe du vivant, ceux qui ne connaissent pas, qui à la fois pose le constat qu'on est en perte de repères, on ne sait plus trop dans quel monde on vit et quelle est notre relation aux autres et aux autres formes de vie. C'est assez nouveau et qu'il ne faut pas avoir peur de l'assumer collectivement, plutôt que de dire on sait exactement ce qu'il faut faire, on va faire comme ça. Prendre le temps, voilà, de faire ce constat-là et qui ne s'arrête pas là et esquisse quel pourrait être un nouveau rapport au monde. Et notamment, il parle d'avoir une alterdiplomatie avec les autres formes de vie, c'est-à-dire que les autres formes de vie soient dignes de diplomatie, de rapports sociaux avec nous, qu'ils ne soient pas juste perçus comme un décor, pour le dire. Donc voilà, L'inexploré de Baptiste Morisot. Les Utopiennes aux éditions de la Mer Salée que j'ai acquis il y a deux jours en participant à une soirée qui était le soulèvement des imaginaires en bande organisée et qui est un recueil d'histoires qui nous projette dans un futur en 2043, donc il y a une vocation vraiment prospective utopique, et je pense qu'on en a besoin. Voilà, deux livres que je trouve très complémentaires.
C'est bien. Juste la petite parenthèse, du coup, par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit, par rapport à Baptiste Morisot, qu'il faisait le constat qu'en gros, pour la faire de façon très simple, c'est un peu le bordel. Donc globalement, il ne faut pas en avoir peur, il faut plutôt en prendre conscience pour avancer. Si on prend un regard dans l'évolution de la société humaine depuis... t'as pas l'impression en fait que les choses évoluent toujours comme ça. Il faut à un moment donné prendre qu'on se prenne des, des claquounettes, ou en tout cas qu'il y a des prises de conscience ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on en prenne conscience pour ensuite les corriger. Ça ne fonctionne pas comme ça finalement, et on n'est pas en train de vivre ça comme des générations avant nous l'ont finalement déjà vécu sous d'autres formes, hein, sur d'autres formes, sur d'autres sujets, etc. Mais qui amènent toujours vers plus de mieux.
Je te rejoins, il y a toujours une idée de cycle, avec des cycles de... dont je serais les cycles de récits, alors si je devais le résumer, avec des récits qui émergent, qui nous fédèrent, enfin la spécificité quand même de l'humain et qui lui a permis d'accomplir de si grandes choses, des choses si différentes que d'autres formes de vie, c'est que on croit au récit, voilà, c'est la capacité fictionnelle de l'humain qui nous permet de collaborer à grande échelle. Tant qu'il y a des récits qui nous fédèrent collectivement, les sociétés humaines se portent bien. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, ces récits, on commence à plus y croire, on n'y croit plus du tout. On est complètement dans cette phase-là pour le récit d'un humain qui domine tout et qui est maître de tout. Il y a d'autres récits des mères qui émergent. C'est toujours des phases très compliquées parce que voilà, ça se traduit par de l'instabilité sociale. Et puis, ce récit devient dominant et ainsi de suite. La différence quand même s'il y a une notion de presque de fatalité quand on le dit comme ça, ce qu'explique Baptiste Morisot, c'est que au moment de l'époque moderne, on va dire 19e, il y a quand même eu un discours qui a été porté qui était de dire bon, effectivement, il y a beaucoup de récits successifs qui ont émergé et qui ont irrigué l'histoire humaine et notamment des sociétés occidentales. Mais là, je vous promets, maintenant, avec l'apport de la science, c'est le dernier. Voilà, non, c'est sûr, ça fonctionne comme ça, le monde fonctionne comme ça, la place de l'humain, c'est celle-là. On a une place à part, là, on est l'aboutissement du progrès de la nature et des formes de vie, ainsi de suite. On est séparé du vivant, enfin, voilà. Maintenant, la science le prouve, le vrai récit, c'est celui-là, et tous les récits d'avant étaient faux. Et c'est cette... orgueil ou ego issu de notamment de l'époque moderne qui nous fait d'autant plus mal aujourd'hui où on doit se réinterroger. Et c'est là où il fait la différence avec d'autres civilisations. Alors je sais plus quelle civilisation il prend en exemple. Je vous invite du coup à lire l'ouvrage si vous voulez découvrir ça, mais qui au contraire assume pleinement dans leur vision du monde qu'il y aura toujours des phases qu'il appelle Baptiste Morisot le temps mythique. Il y a toujours un retour au temps mythique au sens où il y a un moment donné on ne sait plus. Il y a toujours un moment où on ne sait plus et il faut se réinterroger. Et pour le coup, voilà, ces civilisations-là l'ont intégré pleinement et en sont conscientes. Là où la nôtre, peut-être par orgueil, ne l'est pas, et c'est ce qui nous fait un peu défaut sans doute.
Ça roule. Si je devais te laisser le mot de la fin, tu dirais quoi?
Je dirais que le chemin sera sans doute long, qu'il sera tortueux. Mais que il sera sans doute aussi très beau sur ce qu'on trouvera sur notre route et que voilà, si on le parcourt ensemble, on passera un bon moment.
Les gens qui veulent en savoir plus du coup sur l'asso, tu peux peut-être donner le site ou les gens qui veulent soutenir ou s'impliquer, peut-être des gens qui aimeraient donner un coup de main de différentes façons, je sais pas trop, mais pourquoi pas.
Ah bah on a de toute façon besoin de soutien à tous les égards, hein. J'ai la faiblesse de croire qu'il y a peu de projets aujourd'hui, voilà, qui ouvrent autant les imaginaires et qui permettent d'imaginer aussi d'autres manières de vivre demain, là où on en a vraiment besoin. Donc, on a besoin de pouvoir montrer qu'on n'est pas juste, voilà, 200 fous comme on l'est aujourd'hui, mais qu'on est 1000, 10 000, 50 000. Citoyens porteurs d'espoir avec des vraies idées, des idées concrètes, faisables, poétiques, belles, et qu'il faut nous croire et qu'il faut rendre ça possible. Donc, effectivement, rejoignez-nous si ça résonne en vous. Le site, c'est www.humosapiens.fr. Humo Sapiens, c'est HUMOSAPIENS. Voilà.
Ça roule. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, pour ce moment passé ensemble. C'était très intéressant et plus que ça encore. Et puis, à très bientôt et prends soin de toi.
Merci. Prends soin de toi aussi, Teddy. Et prenez soin de vous tous. À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors si vous pensez qu'il est important de parler de la mort, de parler de la vie, de parler du deuil avec plus de simplicité et de normalité, je vais avoir besoin de vous et que vous puissiez m'aider. Vous avez un réseau social, vous avez une plateforme de podcast. Je vous invite donc à liker, commenter ou partager cet épisode. Et vous pouvez également mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify avec un mot gentil. Ça m'aide, moi, à faire connaître Vivant au plus grand monde. Et ça aide toutes les personnes qui vont écouter à l'avenir à avoir un rapport plus apaisé à la mort, au deuil et au monde du funéraire. Voilà. Je compte sur vous pour votre implication. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.